Bonjour et bienvenue à chacun. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes connectés ensemble en église, je vous souhaite aussi la bienvenue aussi si vous êtes par petits groupes ou si vous êtes tout seul. Soyez vraiment les bienvenus. Et je souhaite aussi la bienvenue à Sylvain Combes ce soir. C'est lui qui nous fera le sujet sur comment interpréter la parole. Alors, bienvenue à toi, Sylvain. Et puis, je vais juste remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Eh bien, Seigneur Jésus, on aimerait tous ensemble te dire merci. Merci pour ce temps qu'on peut mettre à part pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre à travailler avec ta parole, pour apprendre à bien comprendre cette parole que tu nous as laissée. Alors j'aimerais te remettre cette soirée entre tes mains pour qu'on puisse être conduit par ton esprit, pour qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous dire. On aimerait te remettre particulièrement aussi Sylvain. On te demande que tu le bénisses, qu'il puisse s'exprimer clairement, qu'il puisse aussi particulièrement ressentir ta paix. Et Seigneur, on aimerait aussi te prier pour une protection sur chacun de nos endroits, te demander que tu protèges les groupes, que tu protèges les individus aussi tout seuls. Et je te prie qu'on puisse vraiment nous rapprocher de toi et grandir ensemble. Que ta parole soit bénie et que toi, tu sois béni. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Alors Sylvain, je te laisse la parole.
Merci beaucoup Claude Michel et à Biblos de me faire l'honneur de pouvoir présenter ce cours. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et donc on va aborder l'interprétation de la Bible. Je partage mon écran. Pour commencer cette présentation, j'aimerais qu'on lise un passage de la Bible en Actes 8, 26-40. Dans ce passage, on voit donc un Éthiopien qui lit la parole, et il y a Philippe qui va aller le voir. Donc on va le lire. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, j'ai choisi ce texte parce que je trouve qu'il y a des choses qui nous parlent de la compréhension de la parole et de son application. Alors tout d'abord, on voit une question qu'on doit tous se poser, chacun de nous. Est-ce que je comprends ce que je lis? Et là, on a une réponse donc de l'Éthiopien qui a beaucoup d'humilité finalement. Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Donc une première chose qu'on va voir déjà, c'est que d'être tout seul avec sa Bible, ce n'est pas forcément évident et on ne comprend pas forcément tout ce qu'on lit. On a besoin parfois d'explications. Et donc il peut y avoir des frères dans la foi plus expérimentés qui peuvent nous y aider, ainsi que le Saint-Esprit, puisque aujourd'hui on a le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous éclaire aussi. Un deuxième point que nous montre ce texte, c'est que l'eunuque se pose des bonnes questions. Il se pose des questions déjà. Et on verra tout au cours de cette présentation que se poser des questions, c'est déjà un premier pas pour avoir des réponses. Parce que si on ne se pose pas de questions en lisant le texte biblique, eh ben, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. En fait, il faut être curieux et se poser beaucoup de questions. Et donc là, il se pose une question sur le texte, savoir de qui parle le texte. C'est la base. Pour essayer de comprendre. Et là, on voit que Philippe part de ce texte de l'Écriture et lui ouvre toutes la bonne nouvelle en fait de l'évangile de Jésus. Donc, j'ai mis une petite chaîne de transmission de vélo, là, on voit. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. Philippe, finalement, c'est une chaîne de transmission de la bonne parole, de la bonne nouvelle. Et nous, on est tous appelés à être des chaînes de transmission. Donc, à comprendre, hein, c'est Jésus qui pédale, qui nous donne la force. Et nous, on a juste à être un petit maillon qui transmet aux autres la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, je vous encourage à prendre votre place sur cette chaîne pour être un maillon. Et pour cela, il faut bien comprendre d'abord cette bonne nouvelle avant de pouvoir être débordant et pouvoir la partager aux autres. Voilà. Après ce texte, donc, pour aborder le sujet, comme on a parlé de questions, eh ben, on peut balayer quelques questions qui me semblent pertinentes sur le sujet. Alors, est-ce que dans la Bible, et dans d'ailleurs tous les textes, mais là on parle de l'interprétation de la Bible, est-ce qu'il y a un sens ou plusieurs dans un passage donné? Est-ce qu'on a besoin de la tradition et des commentaires bibliques? Ou alors, seul avec sa Bible, ça va très bien. Comment expliquer qu'il y ait des contradictions apparentes dans la Bible, ou est-ce qu'il y a des vraies contradictions? Comment interpréter la Bible correctement? Et est-ce que la Bible donne des clés pour l'interprétation? Pourquoi y a-t-il tant d'interprétations différentes chez les chrétiens? Et est-ce que toutes les erreurs doctrinales sont-elles aussi graves? Voilà des questions. On ne va pas forcément y répondre comme ça dans l'ordre, mais normalement, on devrait donner tout un tas de points dans cette présentation qui répondront à certains de ces aspects. Pour commencer, dans toute interprétation de texte, je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est l'affirmation relativiste. Et ça, c'est très à la mode aujourd'hui, le relativisme, dans ce qu'on appelle la société postmoderne. Il y a des gens qui disent, personne n'a le droit de dire qu'il a la vérité absolue. Hein, c'est assez à la mode de dire ça. Donc, le texte n'a pas de sens en soi. On prend l'image, des fois, pour parler des religions, de l'éléphant, c'est une histoire hindouiste, où on a un éléphant. Et il y a plein de personnes qui sont aveugles ou avec un bandeau sur les yeux qui essayent de savoir à quoi ressemble l'éléphant. Il y en a un premier qui va toucher la corne et il va dire c'est un animal très dur et froid, alors que celui qui touche la jambe, il va dire non, c'est un animal tout droit et rugueux, et ainsi de suite. Et on dit avec cette image qu'ils ont tous raison finalement, et donc peut-être que toutes les religions se valent ou que toutes les interprétations d'un texte peuvent avoir du sens. Donc c'est la subjectivité totale. L'individu décide du sens. Mais ça, c'est interdit même par les faits, hein. Par exemple, si on regarde le Coran et affirme que Jésus n'est pas ressuscité, la Bible affirme que Jésus est ressuscité, ça ne peut pas être les deux vrais en même temps, hein. Donc ces raisonnements-là ne nous donnent aucune certitude et donc on n'a pas de sens véritable, pas de vérité absolue. Donc ça, c'est le premier écueil. Un deuxième écueil, c'est l'affirmation d'infaillibilité. Par exemple, le magistère catholique, pour un catholique, il est infaillible. C'est-à-dire que c'est la tradition qui a interprété parfaitement le texte biblique. Donc, la confession de foi passe avant la Bible ou sur le même niveau. Et donc, on ne peut plus avoir un accès direct au texte biblique. Pour le comprendre directement, on a cet intermédiaire qui prend autant de poids. On peut aussi avoir à un niveau individuel un certain orgueil spirituel qui fait qu'on pense qu'on est infaillible, qu'on a toujours raison sur tous les points de doctrine. À ce moment-là, on va être fermé au débat et donc et à l'échange avec nos frères et sœurs et donc c'est aussi dangereux. Donc les deux approches attaquent l'autorité biblique finalement. La Bible n'est plus au centre et donc il faut essayer de trouver le juste milieu. J'ai mis cette citation de Hirsch. Si la signification d'un texte n'est pas celle que l'auteur désire, aucune interprétation ne pourra correspondre à la signification du texte. Donc, nous devons chercher qu'est-ce que l'auteur voulait dire, l'auteur inspiré, qu'est-ce qu'il voulait dire dans tel texte. Et ça, c'est un présupposé biblique. On va le voir dans ce verset de 2 Pierre 3,16. Il est dit que c'est ce que fait Paul dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. On trouve ici quelques points très intéressants sur l'interprétation. Un premier point très intéressant, c'est que la Bible reconnaît d'elle-même qu'il y a des passages difficiles à interpréter. Donc, il y a une difficulté assumée. En Hébreux 5,11, on voit aussi le verset qui dit des choses difficiles à expliquer. Donc, on ne se cache pas derrière son petit doigt. C'est vrai que la Bible, il y a des points difficiles. Mais ce verset dit aussi qu'il y a un sens, une seule vérité principale, puisqu'on peut la tordre. Donc, ils en tordent le sens. Il y a un sens. Donc, pour chaque passage, il y a un sens que voulait donner l'auteur. Ensuite, on voit qu'il y a trois types d'individus qui sont dans l'erreur. Les personnes ignorantes, personnes mal affermies ou les personnes perverses. Ça, on le voit juste après au verset 17. Donc, on voit que ça peut être l'ignorance, c'est-à-dire de ne pas assez creuser la parole, d'être mal affermi, qui peut nous amener vers des erreurs et qui sont dangereuses. Mais ça peut être aussi carrément des personnes perverses, c'est-à-dire la fausse doctrine, peut-être le diable qui utilise certaines personnes pour dire des choses qui nuisent à l'évangile. Et on voit enfin qu'il y a un risque important associé à l'erreur doctrinale, puisque c'est leur propre ruine. Donc, on ne doit pas non plus minimiser la recherche de la vérité, c'est une responsabilité et c'est important. Alors, une des questions qui peut revenir souvent, c'est si la Bible était claire, tout le monde serait d'accord et il n'y aurait pas tant d'interprétations. Pourquoi la Bible ne ressemble pas plus à un manuel IKEA, par exemple, pour monter un meuble, avec chaque petite ligne qui nous dit bien comment ça se passe? Vous me direz, même avec les manuels IKEA, on arrive à se tromper à la fin des fois. Mais en tout cas, la Bible ne se présente pas comme ça. Alors pourquoi Dieu n'a pas communiqué une liste bien organisée de doctrines? Quelques éléments de réponse. Je crois que Dieu veut que nous ruminions sa parole, on le voit dans beaucoup de textes bibliques, et sa parole est vivante. C'est pas simplement A, B, C, D, E, F, G avec des phrases lacunaires. Non, la parole, elle est riche, elle est variée en style littéraire, elle est variée en doctrine. Et donc, on a beaucoup de choses à manger, à ruminer dans la Bible. Ensuite, la parole doit s'incarner en nous. Donc, si c'était quelque chose de trop sec, on aurait du mal, ça nous parlerait moins. Et donc, Dieu veut que nous vivions sa parole. Ça nous responsabilise le fait que ce soit que les doctrines ne soient pas établies parfois de façon très claire. Ça nous responsabilise dans la recherche de la vérité. Dieu aime nous responsabiliser de manière générale. D'autre part, ça attise notre curiosité, notre désir de comprendre. Moi, il y a les passages que j'ai trouvés les plus durs dans la Bible. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Sur Romains 9, par exemple, je trouvais que c'était un chapitre très difficile et qui me faisait un peu peur. Eh bien, ça a attisé ma curiosité, en fait, pour en savoir plus. Et c'est ça qui m'a, en fait, donné envie de chercher. Si j'avais tout compris dès le début, peut-être que j'aurais eu moins d'attrait pour le texte. Enfin, ça nous rend plus humbles aussi, puisque si on comprenait tout instantanément et qu'on ait la connaissance parfaite, peut-être que si on allait voir les gens pour leur proposer la bonne nouvelle, eh bien, on croirait avoir la vérité tout sur tout et peut-être qu'on serait pas bien entendu comme ça. Et enfin, ça nous fait dépendre du Saint-Esprit et de nos frères et sœurs pour échanger et grandir ensemble. Un verset que je voulais vous mettre sur le cœur, c'est celui de Daniel 10, 12. où il est dit, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Alors, je trouve ça beau de se dire que quand on a à cœur de comprendre et de s'humilier devant Dieu, eh ben, on est entendu et Dieu se révèle à nous. Donc, c'est l'attitude qui doit nous diriger. Et voilà, je pense que tous ceux qui sont là ce soir ont envie de comprendre et de s'humilier devant Dieu pour qu'il leur parle. Maintenant, on va commencer à aller un peu plus dans la méthode. Comment faire pour essayer de bien comprendre la Bible? Alors, un point que je trouve crucial, c'est d'aborder la Bible au début avec une lecture cursive, c'est-à-dire une lecture du début à la fin. Ça nous permet, comme cette petite montgolfière que vous voyez au-dessus du château, d'avoir une vision plus panoramique, une vision de haut sur la Bible. Et si vous êtes le nez collé au pont-levis du château, eh bien, vous aurez plus de mal à comprendre comment le château est construit, hein, bien sûr, si vous commencez juste à regarder les détails du pont-levis. Alors que là, en prenant du haut, dès le début, ah, vous comprenez l'architecture générale. Peut-être que vous ne comprendrez pas tous les détails, vous ne voyez pas l'intérieur de la cour, du château, mais vous voyez qu'il y a plusieurs tours, qu'il y a une enceinte, etc. C'est pareil pour la Bible. Donc, c'est bien de commencer, quand on est un jeune croyant, par exemple, par une lecture rapide. Par exemple, un ou deux chapitres de l'Ancien Testament et un ou deux chapitres du Nouveau Testament chaque jour. Se mettre un défi de la lire en un an avec des amis pour s'y encourager, par exemple. Si on a beaucoup de difficultés à lire, il y a d'autres sources. On peut écouter la Bible en audio aussi. On peut commencer plus facilement en faisant, par exemple, Genèse plus Jean, puis un livre de chaque genre littéraire, puis l'histoire d'Israël dans l'ordre, comme vous voyez ici. On peut aussi prendre la Bible en 90 minutes si vraiment on a un peu de temps devant soi. Et je pense qu'on a tous plus que ça. Il faut aussi choisir là où on veut mettre son temps. Mais donc la Bible en 90 minutes, ça peut aussi être un cadeau à donner à un très jeune croyant ou à un incroyant qui est intéressé pour avoir un aperçu de la Bible. Donc c'est des passages sélectionnés qui balayent toute la Bible et qui montrent le fil rouge du salut. Comme Luc 24, 27 nous le montre, toutes les Écritures pointent vers Jésus, même les écrits de Moïse, des prophètes. Donc, quand on a cette vision de haut, on commence à voir cela. En termes de méthode, il y a deux méthodes. Alors, c'est des mots qui paraissent peut-être compliqués, inductive et déductive. Qui peuvent être utilisés pour interpréter un texte, et ici la Bible. Dans la méthode déductive, on part d'une vérité doctrinale qu'on tente de justifier par la Bible. En fait, ça correspond à une étude plutôt thématique, où on dit je vais étudier par exemple l'argent dans la Bible, et on va du haut vers le bas. On dit comment est traité l'argent, et on va essayer de piocher partout dans la Bible où ça parle de ce thème. Alors l'intérêt, ça permet de systématiser l'enseignement biblique en donnant cette vue d'ensemble, mais attention, il y a toujours un risque, c'est de forcer le texte pour entrer dans le cadre qu'on s'est donné, voilà. Puisqu'on se donne une hypothèse au début, puis on va aller voir dans les textes si elle s'y trouve. Dans l'autre sens, en allant du bas vers le haut, du particulier vers le général, eh ben on a la méthode inductive. Donc là, on part des détails qu'on va trouver dans un texte et on fait une étude analytique du bas vers le haut. On prend un texte et hop, on le regarde verset par verset. L'intérêt, c'est de partir du texte avec le moins de préconçus possible. Mais le risque, c'est d'isoler le texte du contexte général des Écritures et donc de donner trop de poids à un détail. Donc les deux approches nécessitent la prise en compte du contexte biblique et de la progression de la révélation. Hein, parce que dans la révélation biblique, hein, on sait qu'il y a eu plusieurs dispensations, plusieurs périodes où Dieu s'est révélé de manière différente, et donc il faut le prendre en compte pour bien comprendre les textes selon la période où ils se trouvent. Maintenant, on va aborder la méthode inductive un peu plus en détail avec la méthode qu'on appelle observation, interprétation et application, OIA. Alors, je ne l'ai pas inventée, hein, bien sûr, elle est très connue. Elle est utilisée par beaucoup de chrétiens. Alors, l'idée un peu derrière ça, c'est pour prendre une image, est-ce que vous avez déjà regardé un enfant qui cherche son doudou? Eh bien, c'est un peu aléatoire, hein, puisque des fois, il va rentrer dans la pièce où est le doudou est en plein milieu, il va regarder partout, il l'a sous le nez, mais il ne va pas le voir. Donc l'observation, ça s'apprend. Il faut de la persévérance, il faut un peu de méthode, et puis on continue de progresser même avec l'âge, hein. Moi, j'ai du mal à trouver mes chaussettes des fois, ma femme, sait beaucoup mieux chercher que moi. Donc, on a parfois, comme Cyrano de Bergerac, le nez, on voit que ça au milieu de la figure. On devrait voir que ça, mais on ne le voit pas parce que, on regarde ailleurs. Les trésors sont sous nos yeux dans la Bible, mais nous ne les verrons qu'en prenant du temps. Et là, on peut s'inspirer des Béréens qui, quand ils ont reçu, la parole, ils l'ont reçu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'observation. Donc, premier point de la méthode, l'observation. C'est fondamental. Donc, comme un détective face au texte, eh bien, on va se poser des questions. La clé de toute la méthode d'interprétation, c'est de se poser beaucoup de questions. Alors, on appelle les questions, les 6 premières questions, les 6 fidèles compagnons. C'est d'abord qui a écrit, à qui l'auteur a écrit et quels sont les personnages principaux. Ensuite, on a quoi, que dit l'auteur, avec quels mots, puis où se déroule l'action, quelle est l'origine des personnes. Alors, toutes ces questions, on peut se les poser sur n'importe quel texte, n'importe quel document historique. Mais il faut aussi le faire avec la Bible, puisque c'est aussi un document historique où il faut se poser des questions pour comprendre tout simplement ce que l'auteur voulait dire. Quand se déroule l'action, quelle est sa durée, sa position par rapport aux autres événements clés? Comment, de quelle manière se déroule l'action? Quelle est l'attitude des personnes impliquées? Il faut essayer de s'imprégner du récit et regarder aussi la forme littéraire qui est utilisée. Pourquoi les acteurs du récit agissent ainsi? Et voilà, quelles sont leurs motivations? Avec ces 6 questions, on commence déjà, en passant un peu de temps sur chacune, à mieux comprendre un passage. Vient la deuxième étape qui est l'interprétation. On va encore se poser des questions pour bien interpréter le texte. Quel est le sens de ce mot? Voilà, on va un peu plus dans le détail. Quel est le sens de ce mot, de cette expression? Alors attention, un mot peut être traduit d'une manière ou d'une autre selon les traductions. On peut un peu comparer des traductions si besoin, ou voir le mot strong dans l'original grec ou hébreu pour essayer d'aider un peu. Pourquoi l'auteur a écrit cela? Quel est son but premier? Qu'implique le passage? Voilà, là on essaie d'aller un cran plus loin. Et après, on va essayer de répondre à ces questions qu'on se pose, soit par nous-mêmes, dans un premier temps. C'est toujours mieux de se mettre en face du texte biblique et d'essayer de se poser les questions à soi-même, en face de Dieu, si on veut, pour mieux comprendre la parole. Et puis, dans un deuxième temps, les questions qu'on n'a pas eu du mal à résoudre ou dont on n'est pas certain, eh bien, on va utiliser des outils comme les dictionnaires, les commentaires bibliques, et on a beaucoup, beaucoup d'outils à disposition aujourd'hui. On y reviendra un peu sur des exemples d'outils tout à la fin. Dans ce verset de 2 Pierre 1:20, on voit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou personnelle. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Encore une fois, on voit ici que c'est pas moi qui décide du sens à donner au texte. C'est pas un objet d'interprétation particulière. Je dois me conformer à ce que la Bible essaye de me dire. Et enfin, l'application. Des fois, on pourrait l'oublier, hein, parce qu'on a, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai soif de connaissances, j'aime bien creuser les choses, mais il faut pas en rester là, parce que la Bible, c'est une parole vivante et ça doit transformer notre vie. Donc, si on s'arrête juste à l'interprétation, bon, bah, on peut être des singes savants et c'est pas ce que Dieu recherche pour nous. Donc, pour appliquer la parole à notre vie, il y a aussi des bons conseils qui ont été donnés, qui sont encore pas de moi, hein, mais ça consiste encore à se poser des questions. Et une bonne application personnelle d'un texte, eh bien, elle doit être formulée de manière personnelle, avec des je, moi, mon, de manière pratique. Donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Le texte me dit de me mettre en marche. Comment je vais m'appliquer ça personnellement et de manière pratique? Ça doit être donc spécifique, concret, ça doit être possible, une action que je vais pouvoir accomplir, sinon on risque de se décourager. Et ça doit être, si possible, quantifiable. D'ici la fin de mois, je voudrais voilà, avoir progressé soit dans ma proximité avec Dieu en lisant tous les jours 15 minutes la parole ou en faisant la vaisselle tous les jours, ou j'en sais rien, hein. Ça peut s'appliquer plein de choses. En 2 Timothée 3, 16, 17, on voit un petit peu l'objectif de la compréhension de la parole. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, l'objectif, c'est qu'on soit formé, équipé, solide pour toute œuvre bonne, pour propager la bonne nouvelle, pour aimer notre prochain, pour briller sur cette terre. Donc, c'est ça qui doit nous motiver. Et c'est l'objectif de bien comprendre la parole. Maintenant, on a dit pas mal de généralités. Alors, je voulais qu'on aille un peu dans le concret avec un exemple sur un des thèmes assez compliqués de la parole de Dieu. C'est l'articulation entre la foi et les œuvres. Encore aujourd'hui, les catholiques n'ont pas la même vision de la foi et des œuvres que les protestants, par exemple. Et on pense que c'est une des grandes avancées de la réforme protestante, c'est d'avoir mieux compris cette articulation. Alors, dans la Bible, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une contradiction apparente entre le texte de Jacques 2 et le texte de Romains 4, 1, 8. Je vais lire simplement les phrases en gras. Donc, en Jacques 2, est-ce que cette foi peut le sauver, une foi qui n'a pas les œuvres? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Puis plus bas, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes? Dans ces passages, Jacques, il semble accentuer vraiment sur le fait que les œuvres paraissent même plus importantes que la foi. À l'inverse, dans Romains 4, 1, 8, à propos d'Abraham, qu'est-ce qu'il est dit? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. On dirait que c'est l'inverse de ce que vient de dire Jacques, puisque Jacques dit Abraham a été considéré comme juste sur ses actes. Et juste après, Paul dit, Abraham a eu confiance en Dieu, a eu foi en Dieu, et cela lui était compté comme justice. Et ensuite, on a, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Quoi? Paul dit qu'on peut rien faire et juste avoir la foi et être sauvé? Et ensuite, il écrit, c'est la justice sans les œuvres. Donc, dans ces deux passages, on pourrait très vite être tenté de dire les deux auteurs bibliques ne sont pas d'accord. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Martin Luther, et c'est pendant la Réforme, donc vous voyez qu'à la Réforme, tout n'a pas été compris instantanément. Martin Luther avait dit que Jacques était une épître de paille, puisqu'il trouvait qu'elle ne parlait pas correctement du salut par la foi. Avait-il raison? Non, je ne pense pas. C'était présomptueux de dire ça. Et donc, il n'avait pas bien saisi l'articulation entre ces deux textes. Alors, en fait, dans ces deux textes, on peut se poser les questions qu'on a vues précédemment pour essayer de comprendre. Et là, on va en arriver un petit peu à des conclusions auxquelles on peut en arriver. Les contextes et les objectifs des auteurs sont différents. Toujours regarder le contexte autour des livres pour comprendre qu'est-ce que cherchait à faire l'auteur. Donc, en fait, Jacques, dans son épître, il parle à des gens qui ont bien compris certainement le salut par la foi en Jésus, mais qui se disent du coup, je peux être tranquille, il n'y a plus rien à faire, Jésus a tout fait, moi je peux vivre ma vie comme je veux. Et alors là, il les reprend, il leur dit, ce type de foi-là, c'est une foi morte, c'est pas la vraie foi. Attention à ne pas vous illusionner. Tandis que Paul, il parle certainement à des gens de culture juive qui ont une propre justice, qui pensent qu'ils doivent, qui ont encore ces relents de penser pouvoir être justes par eux-mêmes. Et en fait, il leur dit non, non, c'est la foi qui sauve, c'est pas vos œuvres de la loi. Donc en fait, les mots sont différents puisque Paul, il parle des œuvres de la loi qui ne peuvent pas sauver. Et il parle de la foi vivante, alors que Jacques, il parle d'une foi morte et il parle des œuvres de justice, les vraies bonnes œuvres. Donc, il faut pas aller trop vite en besogne. Et donc, on se rend compte que les deux sont finalement d'accord pour dire que nos propres œuvres de justice, les œuvres de la loi, ne nous sauvent pas. Elles ne peuvent pas nous sauver. Mais c'est la foi vivante, pas la foi morte, la foi vivante et agissante seule qui nous sauve. Cette foi, par contre, elle ne peut pas nous laisser sans fruit. Si on a la vraie foi, elle nous fera porter des bonnes œuvres, mais pas les œuvres de la loi, les vraies bonnes œuvres. Ces œuvres découlent de notre foi, elles l'affermissent et elles sont un signe de notre réelle transformation. Mais elles ne nous font pas mériter le ciel, bien sûr. Et enfin, il ne faut pas oublier l'application. Une fois qu'on a mieux compris cette articulation entre foi et œuvre, eh bien, on peut être soit d'un côté, soit de l'autre. On peut avoir plus besoin à un moment du texte de Jacques ou plus du texte de Paul. Est-ce que je suis conscient qu'aucune de mes œuvres ne contribue à mon salut? Est-ce que j'ai un sentiment de propre justice? Ou à l'inverse, est-ce que je porte des fruits qui démontrent la foi que je professe? Est-ce que je considère le salut comme un simple ticket de loto et puis après je peux gérer ma vie comme je l'entends? C'est mon bateau? Voilà ce que ces textes peuvent nous poser comme question et à nous de transformer ce qu'il y a à transformer avec l'aide de Dieu. On a vu que le contexte nous aidait beaucoup. Je voulais montrer deux images ici. Sur l'image de gauche, vous voyez les différents crans du contexte. On a d'abord le verset, on est dans le détail, puis le paragraphe, la section de paragraphe, le livre entier, d'autres livres du même auteur et la Bible entière. Voilà comment on peut remonter et avoir une vision globale. Et à droite, vous avez, on dirait, une sorte de broderie, mais en fait, c'est des références croisées entre les différents livres bibliques. Et vous voyez que c'est un beau tissu. Par exemple, en haut, en rouge, c'est le livre Révélation, c'est l'Apocalypse. Vous voyez que c'est beaucoup relié avec les prophètes, avec les psaumes, avec la Genèse, etc. Et donc, toute la Bible a une unicité avec beaucoup de références croisées. Et là, elles y sont même pas toutes, hein. Il y en a plus, mais là, c'est les directs. Donc voilà, en Jean 5. Jésus dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Encore une fois, Jésus lui-même a affirmé que toutes les Écritures étaient cohérentes et ciblées vers le Christ, vers Jésus lui-même. Au-delà du contexte, il y a quelque chose qui a été appelé dans le cours de l'IBG que j'ai suivi sur l'herméneutique, le pont de principalisation. Je ne sais pas bien pourquoi principalisation, mais En tout cas, le concept est intéressant. C'est d'essayer de faire un pont entre le premier siècle où ont été écrits l'Évangile, et même bien avant pour les textes de l'Ancien Testament, et le 21e siècle. Il y a eu beaucoup de temps entre les deux, et donc il faut prendre en compte le contexte. Et donc ça part tout d'abord de dans quelle alliance, vous voyez en bas, dans quelle alliance se trouve ce texte? Parce qu'il y a eu plusieurs alliances, hein, l'alliance de Moïse, de David, etc. Quelle est la situation historique, contexte historique? À quelle époque précise ça se situe? Quelle est la langue utilisée et dans quelle culture cela se situe? Ça va nous aider à ne pas faire d'anachronisme, à ne pas faire de hors-sujet. Alors, pardon. Ça, c'est ma slide suivante. Alors, on est arrivé au bout de cette première partie. Je vais simplement faire un petit résumé, comme on a vu déjà pas mal de choses. Donc, pour fixer un peu les idées, on a d'abord vu que l'interprétation doit éviter deux écueils. L'affirmation de relativisme, il n'y a pas une seule vérité, et l'affirmation d'infaillibilité. C'est-à-dire, je suis la meilleure autorité pour décider quel est le sens du texte, ou le magistère catholique ou la confession de foi est infaillible et du coup on ne peut plus rien remettre en question. C'est seulement la Bible qui est infaillible. Cependant, nous avons vu aussi que la Bible reconnaît d'elle-même qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a une seule vérité centrale par texte biblique et c'est ce qu'a voulu communiquer l'auteur inspiré. Donc, il est important de rechercher cette vérité, pas toujours facilement accessible, mais avec l'aide de l'esprit et des outils à notre disposition. Autre point à retenir, il faut avoir une vision plus globale de la Bible, donc la voir dans son contexte large, et ça résoudra la plupart des contradictions apparentes. Donc, c'est ce qu'on appelle la Bible interprète la Bible. Et enfin, on a parlé de la méthode OIA, observation, interprétation et application. Elle permet de se poser les bonnes questions. N'oubliez pas de vous poser des questions face au texte. Et donc, ça nous pousse, derrière, ça doit nous pousser à agir, puisque la Bible ne doit pas nous laisser stériles, mais on doit se laisser transformer par la parole de Dieu et la vérité qu'on a comprise du passage. Voilà, je suis disponible pour des questions, s'il y en a.
Merci beaucoup Sylvain pour la première partie de ton exposé. Et puis, comme tu l'as mentionné, c'est le moment de profiter de poser quelques questions. Donc, n'hésitez pas. Je rappelle, vous avez la possibilité de poser vos questions non pas par le chat, mais par le petit onglet QR qui se trouve au bas de votre écran, au milieu de celui-ci. Il ne faut pas hésiter à poser une question. On m'a aussi suggéré dans le chat de dire deux modes de présentation pour toi. Et puis je vais profiter de le faire maintenant, pendant qu'il y a peut-être encore quelques questions qui sont écrites. Oui, on a la chance d'avoir ce soir avec nous Sylvain. Sylvain est marié à Jeanne. Ils sont pères de deux enfants. Il habite la région de Grenoble. Il travaille dans le domaine de l'énergie. Il est engagé dans l'Assemblée chrétienne de Grenoble. Et puis, comme il l'a mentionné, il suit des cours avec l'IBG Online. Et puis, il est également membre du comité de rédaction de Promesses. Donc, comme ça, vous avez quelques éléments biographiques concernant Sylvain qui vous a parlé ce soir. Alors, on a une première question qui nous est posée sur l'onglet QNR. Est-ce que c'est la foi qui fait acquérir des dons spirituels ou bien elles sont acquises depuis l'âge embryonnaire? J'imagine qu'il est fait allusion ici aux dons spirituels qui seraient acquis soit par la foi, soit par depuis l'âge embryonnaire. Qu'est-ce que tu réponds à cette question?
Juste avant de répondre, excuse-moi, est-ce que Sylvain, tu peux enlever ton partage? On vous verra mieux.
D'accord.
Merci.
Oui, alors concernant cette question, moi je ne pense pas particulièrement que les dons soient donnés au stade embryonnaire. Je pense que les dons sont distribués par l'esprit comme il le souhaite, hein. On le voit dans 1 Corinthiens 12, si je ne dis pas de bêtises, et Romains 12 aussi qui parle des dons. Et donc l'esprit fait comme il le souhaite, il distribue comme il veut ses dons. Et après, on a aussi à chercher à plaire à Dieu et donc à entrer dans son chemin. Donc c'est aussi une responsabilité à chercher les meilleurs dons, hein, Paul dit. Donc voilà. Après, on a aussi des aptitudes depuis l'enfance que Dieu nous donne et qui peut mettre à profit, comme Paul qui avait des aptitudes avant d'être croyant. Il était très avec beaucoup de connaissances, beaucoup de culture, etc. Et ça a été mis à profit dans son service.
Merci Sylvain pour cette première réponse. On vient avec une deuxième question. Que dire des différentes versions de la Bible? Selon vous, y en a-t-il plus acceptables que d'autres? Merci.
Bon, alors là, ça aurait été mieux d'avoir Agile, mais sur les différentes versions de la Bible, eh bien, il y a des sites qui montrent toutes les versions classées de la plus fidèle au texte, on va dire, à la plus dynamique, c'est-à-dire celle qui va être un peu plus libre et plus collée avec le langage contemporain, quitte à faire des paraphrases pour expliquer des passages. Donc plus on va être dans le dynamique, plus on va avoir une couche interprétative avec laquelle on peut donc être pas d'accord. Donc il y a ce risque-là. Mais dans la version qui essaye le plus de coller aux mots, on n'évite jamais non plus d'avoir un petit peu d'interprétation et des fois on y perd en sens par rapport à la langue parlée facilement aujourd'hui. Donc des fois les gens vont peut-être moins bien comprendre le texte dans la version Darby si le français est trop soutenu ou un peu compliqué. Donc je dirais que c'est pas mal de trouver celle qu'on comprend bien, qui soit le plus fidèle. Au texte, quand même, moi je préfère lire les versions pas trop dynamiques. J'aime bien la seconde 21, par exemple. Et après, je regarde la Darby pour être quand même un peu plus près des mots, parfois, pour comparer.
Merci Sylvain pour cette réponse. On va encore prendre une question. Oula, tous des bons auteurs qui sont mentionnés. Pourquoi MacDonald, MacArthur et Scofield ne sont pas toujours d'accord sur l'interprétation des textes bibliques? Y a-t-il une méthode d'interprétation qui tienne vraiment?
Alors, on va en reparler un petit peu dans la suite, mais là, les auteurs cités, ce sont quand même pas ceux qui sont le plus pas d'accord, hein. Je dirais qu'il y a du spectre beaucoup plus large au niveau théologique. Et donc, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a fait un peu peur quand j'ai découvert la théologie, de voir des gens qui croyaient des choses très différentes. Ça m'a un peu perdu au début. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit que d'un côté, c'était stimulant. Et que ça nous, et comme on l'a vu tout à l'heure, le fait que la Bible soit pas si simple à interpréter, ça devrait nous humilier quelque part, nous pousser à la creuser, et donc à échanger avec nos frères, à pas rester seul face au texte quand c'est difficile, et à regarder les différentes possibilités. Voilà, c'est un peu un cluedo parfois, mais Dieu, il veut qu'on le cherche comme à tâtons, il dit en Acte 17, Paul. Donc, c'est normal qu'il y ait des incompréhensions, mais ça doit, malgré les divergences, comme les différences de caractère dans l'Église, on doit s'aimer les uns les autres. Et puis on va parler dans la suite de ma présentation des erreurs doctrinales et de comment on peut y faire face.
Très bien, merci Sylvain pour cette première partie, pour la réponse à ces quelques questions. Je vais vous proposer de faire quelques minutes de pause, histoire que chacun puisse bien reprendre ses esprits, se détendre et se préparer pour la deuxième partie que je vous propose de débuter à 21h08 exactement. On vous souhaite une bonne pause et puis on se retrouve d'ici 8 minutes. À bientôt.